Bonjour à chacun. Alors, on va passer un petit moment autour de la Bible, en toute simplicité. On se réjouit de pouvoir l'ouvrir ensemble. Ça ne vous aura pas échappé, peut-être que si en fait, je ne sais pas. Non, ça ne vous aura pas échappé, puisque demain c'est férié, qu'on est le dimanche de la Pentecôte. Alors, j'ai eu deux consignes. Fais pas trop long. Ça devrait aller. Et c'est la fête. Alors, quelque chose de joyeux. Ah, peut-être que ça va être un peu plus compliqué. Alors, comme je vous disais, je pense que ça va pas être trop long. En ce qui concerne la fête, est-ce que vous êtes d'accord que à la Pentecôte, c'est la fête ? Parce que si on se réfère à ce qui se fait dans le monde, à Noël, on est sûr que c'est la fête. Alors ça, c'est sûr. Les cadeaux, le foie gras et tout ce qu'on veut. Et j'ai oublié la dinde. J'oublie la dinde. À Pâques, on sait aussi que c'est la fête. Le chocolat, l'agneau, c'est aussi la fête à Pâques. À l'Ascension, quand c'est un peu plus compliqué, bon, il y a un jour férié, et puis c'est pas terrible parce que ça tombe un jeudi. Donc des fois on fait le pont, des fois on fait pas le pont. Bon. Mais alors là, Pentecôte, c'est la fête aussi. Ben, si on s'en réfère au monde, c'est ni une fête commerciale, ni une fête de famille, ni quoi que ce soit. Plus sérieusement, effectivement, c'est la fête pour nous qui sommes chrétiens à ces quatre occasions. Disons que Noël, c'est la première. En fait, dans l'année, ce n'est pas la première, c'est la dernière. Mais disons que Noël, c'est la première. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde sait encore ce qu'on célèbre à Noël. Au-delà d'un petit bébé, dans une crèche, on célèbre la venue de Jésus sur terre. On célèbre la venue de Dieu sur terre. On célèbre Dieu fait homme. Voilà ce qu'on célèbre tous les ans à Noël. À Pâques, je pense qu'encore quelques-uns ou même nombreux savent ce qu'on fait à Pâques. C'est le moment où Jésus a accompli ce qu'il est venu faire sur terre. Il meurt sur une croix. Il paye le prix que j'aurais dû payer pour mes fautes. Pour mon imperfection. Puis grâce à sa mort et à sa résurrection, aujourd'hui, j'ai la certitude que après ma mort, je serai auprès de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'ai accepté que je suis un homme imparfait, que je suis indigne de rencontrer Dieu, et puis j'ai accepté que Christ est mort pour moi, et puis qu'il est mon sauveur. Par sa mort et sa résurrection, Christ me donne accès à Dieu et à tous ceux qui l'acceptent comme Sauveur et Seigneur. Je vous lis un court passage de la Bible, pas la peine de chercher. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Voilà ce qu'on fait à Pâques. À l'Ascension. Là, si vous allez dans la rue, vous demandez ce qu'on fait à l'Ascension. C'est fini. Plus personne ne sait de quoi on parle. Alors, j'exagère, plus personne, mais plus beaucoup en tout cas. À l'Ascension, c'est le moment où Jésus, après sa mort, après sa résurrection et après s'être présenté à de nombreuses personnes pour attester de sa résurrection, rejoint Dieu dans l'éternité. Mais à la Pentecôte, là, ça devient très, très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait à la Pentecôte ? Et je vous propose, pour en parler ensemble, d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu, mais d'abord, j'aimerais prier. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ta Bible, tu nous as laissé ta parole. Et Seigneur, on te loue parce que tu nous rends capables de la comprendre par ton esprit. Seigneur, on te prie ce matin que nous puissions les uns les autres comprendre ce que tu veux nous dire à travers ce texte, Seigneur. Amen. Alors, je vous propose d'ouvrir votre Bible dans un des livres de la Bible, dans le livre des Actes. C'est dans ce livre où est relaté justement ce qui s'est passé à la Pentecôte. Donc, c'est dans Acte 2. Ce sont les versets 1 à 17. Alors, pour ceux qui auraient cette Bible, c'est à la page 707. Je lis. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de chez tous les peuples du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fit-il donc que nous les entendions s'exprimer dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion nous venons de la Crète ou de l'Arabie et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue, des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas plongés dans la plus grande perplexité. Ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. Alors Pierre se leva, entouré des onze, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres, pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin, mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répandrai mon esprit sur tout le monde. » Voilà, nous arrêtons là dans la lecture de la Bible. Un peu bizarre comme histoire. En fait, cette histoire, elle se déroule à peu près, alors je n'ai pas revérifié exactement, une cinquantaine de jours après la résurrection. Et Jésus a raconté à plusieurs reprises ses disciples, donc après sa résurrection, pour attester justement de sa résurrection et pour les encourager. On les trouve un petit peu perdus après la mort de celui-ci. Je vous lis un petit passage qui atteste cela. Or, dans Actes 1, verset 4 à 8, « Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Le jour de la Pentecôte, ce récit qu'on vient de lire, Dieu accomplit ce que Christ a promis à ses disciples. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tout simplement, et incroyablement, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en ses disciples. Merveilleux, surnaturel, on pourrait employer plein d'autres termes qui ne suffiraient sûrement pas à exprimer la grandeur de cet événement. Alors dans ce récit, on assiste à plusieurs choses miraculeuses, des signes visibles de l'Esprit, des flammèches qui entrent dans chacun des disciples, des auditeurs qui entendent tous les disciples parler dans leur langue maternelle, étonnant, saisissant. Mais au bout du compte, qu'est-ce que cet événement change pour les 12 ? Qu'est-ce que ça peut bien changer pour les 12 disciples qui se retrouvent orphelins de leur maître, orphelins de Jésus, orphelins de Christ ? Et en fait, à la fin de notre texte, on voit une personne qui prend la parole, c'est Pierre. Et en fait, Pierre veut expliquer ce qui se passe à la foule. Et on lit dans le texte, on le lit plus loin, qu'il est en présence de dignitaires religieux, de ceux qui ont participé à la crucifixion de Jésus. Et quelques semaines avant, Pierre, le même Pierre, a renié 3 fois Christ parce qu'il avait peur pour sa vie. À ce moment-là, Pierre, équipé du Saint-Esprit, va tenir un discours qui retrace tout ce que Christ a fait sur cette terre. Il va même jusqu'à accuser dans son discours les Israélites de la mort du Messie. Et en même temps, il va leur dire qu'ils peuvent avoir accès à la vie éternelle en acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur. Dans le même livre de ces Actes des Apôtres, un petit peu plus loin, on peut lire tout ce que Paul a accompli, rempli de l'Esprit Saint. Paul était le plus grand des persécuteurs des chrétiens. Il est devenu le premier des témoins de ce que l'Esprit fait dans une vie. Du plus mauvais, l'Esprit fait le meilleur. On voit tout au long des Actes les disciples accomplir des miracles extraordinaires, des guérisons, des résurrections. Jésus, ayant accompli sa mission, terminé son ministère, Dieu a équipé les disciples du Saint-Esprit afin que ceux-ci puissent continuer à annoncer ce que Jésus est venu accomplir pour tous. Alors oui, le jour de la Pentecôte, c'est la fête au même titre qu'à Noël, au même titre qu'à Pâques. Le Saint-Esprit envoyé le jour de la Pentecôte, c'est Dieu qui agit en ses disciples pour se révéler au plus grand nombre. Mais est-ce que cet Esprit Saint qu'on voit dans ce texte se limite à ses 12 disciples ? Est-ce que moi, est-ce que vous, est-ce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous ? Pas de grands discours devant des foules hostiles ? Pas de passage de persécuteur à persécuté ? Pas de flamme ou de flamèche ? Pas d'apprentissage miraculeux de langues inconnues ? Je relis un petit passage de la Bible, de la parole de Dieu, dans Acte 2, toujours, les versets 37 à 39. « Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est venue pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Mes amis, vous le savez, si nous avons accepté Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit. rien de spécial ou d'extraordinaire à accomplir. Ouvrir son cœur à Christ et Dieu nous équipe. Mais alors on pourrait se poser la question, mais alors pourquoi si peu de miracles, si peu de guérisons, si peu de choses surnaturelles, extraordinaires? Mais en êtes-vous si sûr qu'il y en a si peu? J'aimerais encore qu'on lise un petit passage de la parole. Et là, ça se trouve dans Galates. Alors Galates, c'est un livre un petit peu plus loin. Une lettre écrite par Paul à l'église de Galates. Et j'aimerais qu'on lise au chapitre 5, les versets 16 à 23. Et la question à laquelle on aimerait répondre, est-ce que le Saint-Esprit en nous, dans ma vie, dans vos vies, change quelque chose? Je lis de Galates 5, versets 16 à 23. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux autour de nous et chacun de nous sait ce que nous sommes enclins à faire par notre propre nature. Enclins à agir dans notre intérêt personnel, selon nos envies, pour nous mettre en avant. Et cet état d'esprit est, entre guillemets, naturel, ou plutôt obligatoire lorsque nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Et cette façon d'être orienté vers nous-mêmes, on l'a lu, nous conduit dans bien des domaines de notre vie à ce que nous venons de lire. Des comportements qui peuvent s'affranchir de la morale, parce qu'en fait, on en tire un gain. En fait, c'est pas si grave, et puis ça sera mieux après. Une vision de la vie sexuelle libre de toute contrainte. Une confiance placée ailleurs qu'en Dieu, dans l'argent, dans nos familles, dans notre travail, dans notre réussite, mais aussi dans des pratiques occultes ou toute autre chose. Des sentiments de haine vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal ou vis-à-vis de ceux dont nous croyons qu'ils nous ont fait du mal. Des disputes lorsque nous ne sommes pas d'accord. Des conflits pour imposer notre façon de voir les choses et aussi les imposer aux autres. La convoitise de ce qu'on ne possède pas. Du matériel, mais aussi parfois un statut, une reconnaissance, etc., etc. Et toutes ces choses, on les voit autour de nous, dans notre société, dans nos familles, dans notre lieu de travail, et partout où nous pouvons vivre, mais malheureusement aussi et souvent en nous. L'Esprit de Dieu en nous comme on vient de le lire, nous transforme. Et le fruit de cette transformation, on l'a lu, tous les attributs qu'on a lus tout à l'heure. L'Esprit nous transforme jour après jour. Il renouvelle cette transformation jour après jour. Le fruit de cette transformation, de cette action quotidienne, perpétuelle de l'Esprit en nous, conduit à tout autre chose que notre monde et de ce que nous pouvons voir autour de nous. Je vous relis la fin du texte qu'on vient de lire. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. La transformation de l'Esprit Saint en nous, en moi, c'est par exemple envoyer quelqu'un de taiseux, quelqu'un qui ne parle pas, qui est un peu renfrogné comme moi, d'envoyer quelqu'un de taiseux sur une estrade pour parler devant vous. C'est permettre à des caractères complètement différents, opposés, de vivre des moments forts, ensemble, de communion fraternelle. C'est rendre le plus coléreux des hommes en quelqu'un de patient. C'est permettre à chacun de comprendre la Bible, qui par notre raisonnement tout humain est une folie. C'est permettre à l'Église, dans les pays les plus fermés, les plus persécutés, de grandir. Voilà des miracles continuels, quotidiens, permanents, et on en vit tous les jours. Alors oui, c'est la fête, le jour de la Pentecôte, parce que le Saint-Esprit envoyé ce jour-là, et à chaque fois qu'un homme ou une femme accepte Christ comme son sauveur, c'est Dieu qui agit en nous pour nous transformer. Pourtant, et malheureusement, les mauvais comportements ou les mauvaises pensées ou les mauvaises paroles, etc., nous rattrapent personnellement, nous rattrapent dans nos églises, dans notre église. Et nous ne sommes pas comme le décrit ce texte. Nous restons des hommes, des femmes imparfaits et nous avons besoin, jour après jour, de l'Esprit Saint pour nous transformer, nous reprendre, nous conseiller, nous diriger, mais aussi nous consoler. Et notre responsabilité, notre seule responsabilité, c'est de demander à Dieu de nous permettre d'écouter cet esprit en nous et de nous laisser modeler à son image. Pourtant, il reste une question. On sait qu'on est des hommes imparfaits et on sait que Christ a tout accompli à la croix. Et on sait qu'on ne pourra jamais atteindre la perfection. Alors pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi avons-nous besoin d'être transformés jour après jour? Quoi qu'il arrive, nous restons des hommes pécheurs. On est imparfaits et on l'a reconnu. Christ, par son sacrifice, sa mort et sa résurrection, a payé pour chacun d'entre nous. Et nous avons la certitude de passer l'éternité auprès de Dieu. Pourquoi avons-nous besoin de l'Esprit? Nul besoin sur cette terre de devenir parfait. Et pire que ça, quelle vaine prétention. Mais une telle position et un tel discours, c'est oublier que Jésus nous a laissé une mission. Christ nous a demandé à tous d'être ses témoins. Il a choisi l'Église imparfaite pour refléter ce qu'il est. Il nous a choisis pour faire des disciples dans toutes les nations. Et c'est par les changements qu'il opère dans nos vies que nous pouvons témoigner de la grandeur de Dieu. C'est par l'amour que nous témoignons, les uns aux autres, que nous démontrons que nous sommes ses disciples. C'est par le Saint-Esprit que Dieu parle au travers de nous lorsque nous partageons à nos proches, à nos connaissances, ce que Jésus a fait pour nous. Tous les changements que Dieu opère en nous par le Saint-Esprit reflètent sa grandeur, sa sainteté, sa justice, son amour pour nous tous. C'est une porte ouverte pour tous ceux qui ne profitent pas encore de la grâce de Christ. Alors on se demandait pourquoi ça pouvait bien être la fête le jour de la Pentecôte. Mais c'est la fête parce que Dieu nous propose de cheminer avec nous et avec tous ceux qui acceptent Christ comme Sauveur et Seigneur. Et il propose de cheminer avec nous pour nous transformer, pour nous consoler, pour nous équiper et pour se révéler au travers de nous. C'est la fête parce que Christ, après son ministère, ne nous a pas laissés seuls, mais par l'Esprit, il est avec nous jusqu'à la fin des siècles. Prions. Seigneur, merci pour cette grâce merveilleuse, cette espérance merveilleuse que tu as placée dans mon cœur, de pouvoir passer l'éternité à tes côtés. Merci pour ce sacrifice. Merci parce que tu as payé à ma place pour mes fautes et que tu m'offres l'accès à la vie éternelle. Et Seigneur, merci parce que ce jour de la Pentecôte, tu as fait ce que tu avais promis et tu ne nous laisses pas orphelins, mais tu nous équipes du Saint-Esprit. Jour après jour, Seigneur, tu nous guides, tu nous diriges, tu nous corriges, tu nous consoles, tu nous accompagnes. Et Seigneur, nous voulons te prier ce matin que nous puissions être à l'écoute du Saint-Esprit, que nous nous laissions transformer jour après jour pour que nous puissions être tes témoins comme tu nous l'as demandé. Amen.